et d'un bout à l'autre de l'enfer retentiront des sifflements, des injures, des cris d'indignation et de rage à l'adresse de celui qui se disait chrétien, qui même enseignait les autres, mais dont le cœur n'était pas droit devant Dieu. Pour ma part, mes frères, je vous le déclare, il n'est aucune réprobation qui me semble plus à redouter que la réprobation réservée aux hypocrites apostats, à ces hommes sans pudeur ni conscience qui prétendent aimer le Seigneur, glosent sur des sujets religieux, défendent avec chaleur le christianisme, participent à la Sainte Cène, parlent des heureux effets d'une bonne communion, se lèvent pour prier dans les assemblées fraternelles et expriment l'assurance qu'ils seront exaucés à cause de leur foi, mais qui, tout en se couvrant ainsi du manteau de la religion, commettent des choses abominables, opprimant le chétif, faisant tort à l'orphelin et pratiquant toutes sortes d'iniquités. Oh ! En vérité, j'estime que la condamnation particulière qui fondera sur de tels hommes sera deux fois plus redoutable, deux fois plus écrasante, que celle de toute autre classe de pécheurs. Il me semble qu'en enfer il y aura comme un autre enfer où les damnés les plus coupables seront condamnés une seconde fois et là seront jetés les hypocrites, tous ceux qui ont été avec nous mais qui n'étaient pas des nôtres, qui prétendaient appartenir à Christ mais qui n'étaient que de vilains posteurs. Oh ! Formaliste qui m'écoutez, je vous en supplie, si vous ne voulez pas aggraver votre condamnation, si vous ne voulez pas attiser vous-même le feu qui ne s'éteint point, si vous ne voulez pas que vos chaînes soient rendues plus pesantes, votre rage plus hideuse, vos imprécations plus désespérées, je vous en supplie, quittez sans délai cette profession de piété dont vous êtes indigne. Ou bien décidez-vous pour le Seigneur, sortez de cette enceinte contrite et humiliée et rentrez chez vous, ployez le genou devant Dieu en lui demandant de vous sonder, de vous éprouver, de vous rendre intègre et droit devant sa face. Prenez la ferme résolution de renoncer à ce honteux système de duplicité et de fourberie que vous avez suivi trop longtemps. Ne vous drapez plus dans les robes de la sainteté extérieure pour cacher les souillures qui couvent en dessous. Soyez vrai, soyez sincère. Si, à vos risques et périls, vous voulez continuer à vivre loin de Dieu, soyez des pécheurs qui se donnent pour ce qu'ils sont, et non de vils et rampants hypocrites. Que vaut le bois de la vigne plus que tous les autres bois? Sans contredit, il vaut beaucoup moins, c'est pourquoi, si la vigne ne porte pas de bons fruits, sa fin sera la plus terrible, la plus infamante, la plus lamentable qui se puisse imaginer. Mes chers auditeurs, cela ne vous émeut-il point? Cela n'ébranle-t-il point vos consciences? Ah! Vous tremblez probablement, vous qui n'avez point sujet de trembler, mais quant à ce que c'est dure vérité, devrait transpercer jusqu'au fond de l'âme, hélas! Je le crains, il demeure impassible. L'avertissement que le Seigneur vient de vous faire entendre retentira dans le cœur des vrais enfants de Dieu, comme le cri du prophète, Jérémie 48, 31 hurlait, à cause de Moab. Mais, hélas, Moab lui-même ne hurlera point. Vous gémirez sur Kirer, mais Kirer ne gémira point sur elle-même. Vous pleurez sur les hypocrites de votre connaissance, mais, quant à eux, ils se retireront dans leur demeure, tranquilles et satisfaits, en se disant les uns aux autres discours énergiques aujourd'hui, mais qui ne nous concernaient en rien. Puis, ils iront, avec une froide présomption, avec une inconcevable assurance, prendre d'une main la coupe du péché, et de l'autre la coupe du Seigneur, chanter un soir des chansons profanes, et le lendemain, Jésus, refuge de mon âme, se rencontrer ici avec Christ, et là avec le diable, et, le nom de Dieu encore sur les lèvres, applaudir à toutes les œuvres ténébreuses de Satan. Ah ! Pécheur, 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 prenez garde, je vous en conjure. Que chacun de nous interroge son cœur, pour s'assurer si, jusqu'à présent, il ne s'est point séduit lui-même. Et veuille le Seigneur illuminer notre entendement, afin que nous soyons parfaitement au clair sur cet important sujet. Disons-lui tous ensemble au Dieu fort, sonde-moi et considère mon cœur, éprouve-moi, et considère mes discours, et regarde s'il y a, en moi, aucun mauvais dessein, et conduis-moi par la voie du monde, psaume 139, 23,24. Je termine, mais auparavant il faut que je te dise aussi un mot, à toi, mon cher auditeur, qui en cet instant même te dit avec une joie maligne et la bonne heure. Les faux dévots ont eu leur compte aujourd'hui. Quant à moi, je suis hors de cause, je ne fais point profession de piété, nul ne pourrait me traiter d'hypocrite. J'en suis fort aise, mon ami, et je t'en félicite. Toutefois, ne va pas t'imaginer que tu sois beaucoup plus avancé pour cela. Supposons que deux hommes soient conduits devant la justice et que l'un d'eux, feignant la juste indignation de la vertu calomniée, s'écrie « Je suis un honnête homme, je proteste de mon innocence ». Néanmoins, malgré ces dénégations, on acquiert la certitude qu'il est coupable du crime dont on l'accusait et on le condamne. Vient le tour du second inculpé. « Monsieur le juge, commence-t-il, je reconnais que je suis coupable, j'ai toujours été un scélérat et le serai toujours, je n'ai aucune prétention à la vertu ? Penses-tu, mon cher auditeur, que le juge fasse grâce à ce dernier en raison de son effronterie ? Assurément non. De même, si tu dis en ton cœur « je n'ai aucune prétention à la piété, donc je n'ai rien à craindre », sache que tu t'abuses étrangement et permets-moi de te dire que si c'est une chose terrible que de vouloir se faire passer pour chrétien alors qu'on ne l'est pas, c'est une chose non moins terrible que de vivre, le sachant et le voulant, en dehors de toute piété. À ton tour, prends donc garde de ne pas te faire illusion. Ce qu'il nous faut à tous, sans exception, c'est un nouveau sérieux, un esprit droit, sinon, que nous soyons formalistes ou que nous ne le soyons pas, nous périrons infailliblement. Oh ! Puisse Dieu nous accorder la grâce, aux uns et aux autres, de crier à lui et d'implorer son pardon. Puisse-t-il nous aider à nous repentir de nos péchés et à placer notre confiance, simplement et entièrement, en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous serons sauvés dès ici-bas et sauvés pour l'éternité. L'effusion de sang aux effusions de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Hébreux 9, 22. Mes chers auditeurs, voulez-vous voir trois fous ? Je vais vous les montrer. L'un est ce soldat qui vient de tomber sur le champ de bataille. Il est blessé, grièvement blessé. Le chirurgien accourt et le soldat l'interroge ? Écoutez-le et jugez de sa folie. Lève-t-il les yeux avec une ardente anxiété et demande-t-il si sa blessure est mortelle, si l'habileté du praticien parviendra à la guérir, si l'on a sous la main tous les secours, tous les remèdes nécessaires ? Non, aucune question semblable ne sort de ses lèvres. Chose étrange, il dit « Pourriez-vous m'apprendre quel est le sabre qui m'a blessé, quel est le russe qui m'a si cruellement mutilé ?»« Je tiens beaucoup, ajoute-t-il, à connaître jusque dans les plus minutieux détails l'origine de ma blessure. » Mais sûrement le malheureux est en délire. Vous écriez-vous, son cerveau est malade. De telles questions, dans un tel moment, prouvent jusqu'à l'évidence qu'il est privé de l'usage de sa raison. Voici maintenant un second fou. La tempête gronde, le navire, poussé par un vent arrière, vole sur les flots avec une effrayante rapidité, les lames inondant le pont, les mâts craquent, les voiles sont en lambeaux, et l'ouragan semble redoubler de fureur. Pendant ce temps, où est le capitaine ? Est-il à donner ses ordres à l'équipage ? Affronte-t-il noblement le danger, ou cherche-t-il, par des manœuvres habiles, à déjouer la rage des éléments ? Non. Il s'est retiré dans sa cabine, et là, absorbé dans une profonde rêverie, il se livre à mille conjectures sur l'endroit probable où la tempête a pris naissance. Curieux phénomène que ce vent ! Se dit-il à lui-même, personne encore n'a pu découvrir d'où il vient. Et sans se préoccuper du sort de son vaisseau, du salut des passagers ou de sa propre vie, cet homme étrange continue, heure après heure, à chercher à résoudre des problèmes insolubles. Mais il est hors de sens. Vous écriez-vous, encore, qu'on retire au plus tôt le gouvernail de sa main, il n'a plus une lueur de raison, et si jamais il touche terre, qu'il soit enfermé comme un aliéné incurable. Quant au troisième fou, mes chers amis, il est probable que je n'aurai pas de peine à le trouver parmi vous. Voici un homme qui est malade, blessé par le péché, exposé au terrible ouragan de la vengeance divine, et cependant la question qu'il voudrait me proposer est celle-ci : quelle est l'origine du mal ? Mais tu es fou, mon frère, spirituellement fou. M'écrirais-je à mon tour, sûrement, si tu étais de sens rassis, tu t'enquerrais de toute autre chose. Tu demanderais, non pas comment le péché est-il entré dans le monde, mais bien plutôt comment en serais-je délivré ? Non pas comment se fait-il que le feu du ciel descende sur Sodome, mais bien plutôt comment puis-je m'échapper comme l'eau ? Non pas d'où vient que je sois malade, mais bien plutôt y a-t-il un remède capable de me guérir ? Existe-t-il un médecin qui puisse rendre la santé à mon âme malade ? Ah ! Que de temps ne perdons-nous, pas après de vaines subtilités, tandis que nous négligeons des certitudes ? Il n'est pas de sujet au monde, j'en suis convaincu, qui ait soulevé autant de questions que l'origine du mal. Les hommes ont creusé leur cerveau et mis leur esprit à la torture afin de comprendre ce que l'intelligence humaine ne comprendra jamais, comment le mal est entré dans le monde et comment son entrée peut se concilier avec la bonté divine. Mais, je le demande, à quoi bon ces discussions ? L'existence du mal est un fait patent, avéré, incontestable. Au lieu donc de nous perdre en vaines spéculations, ne serait-il pas plus rationnel que chacun de nous se dise sérieusement à lui-même que dois-je faire pour échapper à la colère à venir, suite naturelle de cette grande maladie morale qui a envahi tout âme d'homme? Or, c'est ici qu'intervient la parole de l'Écriture que j'ai prise pour mon texte. Semblable à l'ange armé d'une épée, qui jadis s'arrête à Balaam sur sa route vers Balak, cette déclaration solennelle, sans effusion de sang, « Il ne se fait point de rémission des péchés », vient se dresser devant la conscience du pécheur réveillé. Sentant que son iniquité doit être ou punie ou pardonnée, il se demande avec inquiétude comment il pourra obtenir le pardon, et voilà que sa demande se rencontre face à face, avec cette réponse catégorique, sans effusion de sang, « Il ne se fait point de rémission des péchés ». Et n'allez pas dire, mes chers amis, que c'est là une maxime purement juive, c'est, au contraire, une vérité vaste comme le monde et immuable comme l'éternité. Elle concerne les gentils, non moins que les hébreux. Jamais en aucun temps, jamais en aucun lieu, jamais pour aucune âme la rémission des péchés n'a été obtenue autrement que par l'effusion du sang. Il y a plus, j'affirme que cette grande vérité est empreinte jusque dans les entrailles de la nature humaine, c'est une loi essentielle du gouvernement moral de Dieu, un de ses principes fondamentaux qui, en dépit de toutes les attaques, resteront toujours debout, une règle qui n'a jamais souffert et qui ne souffrira jamais d'exception. Toujours et partout la même, cette doctrine subsistera d'âge en âge sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Sous l'économie mosaïque, il en était ainsi, pour les Juifs, point de rémission sans effusion de sang. Il existait certains cas, il est vrai, où l'eau et le feu suffisaient pour rendre net, mais toutes les fois qu'il s'agissait d'une violation positive de la loi, la purification ne pouvait avoir lieu que moyennant un sacrifice sanglant. Dieu, ayant voulu enseigner par là à son peuple que le sang et le sang seul effacent les péchés. Et, chose remarquable, les païens eux-mêmes semblent avoir entrevu confusément cette vérité capitale. Que me disent leurs couteaux ruisselants du sang des victimes? Que me disent les lugubres histoires de l'Holocauste, de sacrifices d'immolation humaine qui, des points les plus reculés du globe, parviennent de temps à autre à mes oreilles? Que me disent toutes ces choses? Je le demande, sinon qu'au fond de toute poitrine humaine, ancien comme l'existence même de l'homme, retentit comme un écho affaibli de cette loi divine, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés? Et pour ne parler que de vous-même, mes chers auditeurs, je suis assuré que dans les replis de vos cœurs et de vos consciences il y a comme un secret instinct qui vous dit à tous que pour réconcilier l'âme coupable avec un Dieu saint et juste, il faut que le sang coule, qu'une victime soit immolée. C'est là, je le répète, la grande vérité du christianisme, et c'est cette vérité que je voudrais essayer de fixer dans votre mémoire en demandant à Dieu de la faire pénétrer lui-même dans vos âmes. Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Avant de développer mon texte, je dois tout d'abord répondre à une question qui se présente naturellement à l'esprit. De quelle effusion de sang est-il ici parlé? L'apôtre n'avait-il point en vue un sacrifice particulier lorsqu'il écrivait ces paroles? Oui, mes frères. Un sang d'un prix infini a été répandu, et c'est à l'effusion de ce sang que je voudrais vous faire assister. Il ne s'agit plus ici de meurtre ou de massacre, il ne s'agit plus de brebis ou de boucs égorgés sur les autels. Il y eut une fois un sacrifice auprès duquel tous les autres ne sont rien, c'était un homme, c'était un Dieu qui versa alors son sang. Venez, voyez. Nous sommes dans un jardin à l'aspect triste et morne. Il est minuit. Le sol, durci par la gelée, craque sous les pas. Parmi ces oliviers, au sombre feuillage, je vois un homme, je l'entends exhaler son âme dans la prière. Ange, écoutez. Écoutez, ô fils des hommes. Écoutez et soyez étonnés. C'est le Sauveur qui offre sa vie avec de grands cris et avec larmes. Approchez. Considérez son front. Ô prodige. Des grumeaux de sang découlent de son visage et de son corps tout entier. Chacun de ses pores est ouvert et une sueur s'en échappe, mais ce n'est pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, c'est la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel. Il sue une sueur sanglante. La voilà cette effusion de sang, sans laquelle il ne se fait point de rémission des péchés. Mais suivons l'homme Dieu. Des mains sacrilèges l'ont traîné de ce jardin témoin de sa prière et de son agonie jusqu'au prétoire de Pilate. On le fait asseoir et on l'insulte, on le revêt dérisoirement d'un manteau de pourpre, on ceint son front d'une couronne d'épines, et soudain ange du ciel. Que dites-vous éprouver à cette vue ? Soudain, deux lignes ensanglantées sillonnent sa face divine. Ensuite, on le dépouille du manteau royal, on découvre ses épaules et elles sont teintes de sang. Esprit infernaux, dites-moi, oh ! Dites-moi qui a ainsi blessé mon sauveur ? Les soldats romains se chargent de me répondre, ils reprennent leur verge encore sanglante, ils le flagellent de nouveau, ils déchirent ses chairs, ils font ruisseler son sang jusqu'en terre. Là voilà encore cette effusion de sang, en dehors de laquelle il ne se fait point de rémission des péchés. Mais ce n'est pas tout. On entraîne Jésus au lieu du supplice, on l'étend sur le sol, on cloue ses mains et ses pieds au bois transversal, puis on dresse la croix, on la sujettit dans le soubassement préparé pour la recevoir, maintenant elle est debout, et sur elle est suspendu le Christ de Dieu. Au déchirant spectacle, du sang de ses têtes, du sang de ses mains, du sang de ses pieds. Et avec son sang, sa vie s'écoule dans une inexprimable agonie. Et son âme s'épuise en angoisse sans pareil. L'œil, la masse à Bethanie. Enfin, il expire. Mais voyez encore, on lui perce le côté avec une lance, et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Voilà l'effusion du sang, pécheur et saint. Voilà cette grande, cette solennelle aspersion, ce sacrifice sanglant et expiatoire, sans lequel, ni pour vous individuellement, ni pour la race humaine en général, il ne saurait y avoir de rémission des péchés. Oui, c'est là l'effusion de sang dont parle l'apôtre. Oh ! Mon Dieu, comment se fait-il que des hommes puissent écouter une telle histoire, les yeux secs ? Je l'ai mal racontée, direz-vous. Il est vrai, mes amis, et je me blâme tout le premier. Mais sachez-le alors même que la scène sanglante du calvaire vous serait décrite par la langue la plus malhabile. Si vos cœurs étaient ce qu'ils devraient être, ils se fondraient en larmes de sang. Oh ! Quel crime, quel meurtre que celui-là ! C'était plus qu'un régicide, plus qu'un fratricide, plus qu'un parricide c'était. La langue humaine n'avait point de mots pour désigner un tel crime, il a fallu en inventer un. C'était un déicide. Le meurtre d'un dieu. Le meurtre de celui qui s'est incarné pour nous sauver. Ah ! Si nos cœurs étaient seulement aussi malléables que le fer, nous pleurerions. S'ils étaient aussi tendres que le marbre des montagnes, nos yeux se changeraient en ruisseaux d'eau. Mais ces cœurs sont plus durs que la pierre, même qu'une pièce de la meule de dessous, allusion à Job 41:15. C'est pourquoi nous oublions les douleurs de celui qui, à cause de nous, est mort d'une mort pleine d'ignominie et d'amertume. Nous ne plaignons pas de ses souffrances, nous ne considérons pas que c'est pour nous proprement, qu'il a tout enduré, tout accompli. Mais pour en revenir à notre texte, redisons que le grand principe qu'il établit est celui-ci, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Cette proposition me semble être à la fois négative et affirmative. J'y trouve d'abord une négation formelle, point d'effusion de sang, point de rémission, et ensuite une affirmation implicite qui ressort de la négation même, et qu'on peut formuler ainsi: par l'effusion du sang, il y a rémission des péchés. En premier lieu, ai-je dit, mon texte exprime une négation formelle. Point de rémission en dehors du sang de Jésus, voilà ce qu'il nous enseigne de la manière la plus nette. Et veuillez considérer, mes frères, que cette assertion est d'autorité divine. En la prononçant aujourd'hui devant vous, je ne fais que répéter les paroles mêmes de Dieu. Ce n'est pas une chose que vous puissiez croire ou rejeter à votre choix, vous devez la croire, vous devez l'admettre, sinon vous vous inscrivez en faux contre l'Écriture et vous donnez le démenti au Tout-Puissant. Peut-être m'arrive-t-il quelquefois d'émettre certaines idées qui n'ont guère d'autre base que mes propres raisonnements ou mon interprétation particulière, ce qui, j'en conviens, est bien peu de choses, mais ici, je ne viens pas simplement étayer une opinion personnelle par des passages empruntés à l'Écriture. Je cite textuellement les paroles sorties des lèvres de Dieu lui-même. Prenez et lisez point de rémission. C'est écrit en toutes lettres dans la parole inspirée, donc, cette doctrine est divine. Il est possible que vous soyez disposé à regimber contre elle, mais rappelez-vous qu'en le faisant, vous vous révoltez, non pas contre moi mais contre Dieu. Je ne veux point perdre mon temps en vaines disputes de mots. Dieu me garde de négliger la belle mission de proclamer l'Évangile pour contester avec les hommes. Je me présente à vous en ce moment, le décret irrévocable de Dieu à la main, et je vous dis à tous sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Sans doute, vous n'êtes pas tenu de recevoir comme article de foi tout ce que vous enseigne le prédicateur, mais souvenez-vous que si vous ne croyez point ceci, c'est au péril de vos âmes, car, encore une fois, la vérité que je vous annonce émane directement de Dieu. Or, quand Dieu parle, oseriez-vous contredire ? Non, vous ne l'oseriez. car ce serait le comble de l'impiété. Inclinez-vous donc devant la solennelle négation de mon texte et profitez du sérieux enseignement qu'elle vous donne. Mais on n'objecte que la manière dont Dieu a sauvé les hommes, c'est-à-dire par l'effusion sang, est cruelle, injuste, inhumaine. Que sais-je encore ? À ceux qui raisonnent ainsi, je n'ai qu'un mot à répondre. Votre opinion à cet égard me touche peu, leur dirais-je, les faits sont là, Dieu a jugé bon de faire reposer tout le plan du salut sur le sacrifice de son Fils. Si votre Créateur vous semble avoir eu tort, attendez de vous trouver en sa présence pour lui demander raison de sa conduite. Mais réfléchissez, je vous le conseille, avant de lui jeter le gant. Malheur au vermisseau, qui voudrait lutter contre celui qui le forma, et malheur à l'homme assez audacieux pour oser se mesurer avec le Très-Haut ? Bien comprise et reçue avec foi, la doctrine de l'expiation est pleine de douceur, car elle est la manifestation d'un amour sans bornes, d'une bonté incommensurable et d'une justice infinie. Mais, je le sais, cette doctrine, si précieuse pour le croyant, a toujours été en scandale aux gens du dehors. Que vous dirais-je, ô incrédule ? Vous haïssez ce qui seul pourrait vous sauver, vous méprisez la grâce qui vous est offerte. Encore une fois, je ne veux point perdre mon temps à discuter avec vous, je me borne à répéter au nom de mon maître, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Et observez, mes chers auditeurs, combien cette déclaration est absolue. Mais ne puis-je obtenir le pardon de mes péchés par mon repentir ? Dirait l'un, si je pleure, si je gémis, si je prie, le Seigneur ne me pardonnera-t-il pas ? Point de rémission sans effusion de sang, répond mon texte. Mais si je ne pêche plus désormais, dira un autre, si je sers Dieu avec plus de fidélité, avec plus de zèle qu'aucun de mes semblables, le Seigneur ne me pardonnera-t-il pas à cause de mon obéissance ? Point de rémission sans effusion de sang, répond mon texte. Mais si je me confie simplement en la miséricorde de Dieu, reprend un troisième, ne serai-je point pardonné, sans que j'aie besoin de recourir à un sacrifice quelconque ? Sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés tels, est la réponse invariable de mon texte. Oh ! Que de fatales illusions crouleraient si on voulait se placer en présence de ces paroles si claires, si nettes, si positives. Fils des hommes, apportez ici vos espérances de salut, et si elles ne sont pas fondées dans le sang et scellées de sang, dites-vous bien qu'elles sont aussi chimériques que des châteaux en l'air ou que les songes de la nuit. Et pourtant, malgré cette déclaration si formelle, l'on s'obstine à essayer de 50 moyens différents pour obtenir la rémission des péchés, tellement qu'en vérité le ministre de l'Évangile est parfois fatigué d'avoir toujours à revenir sur les mêmes doctrines, toujours à combattre les mêmes erreurs. Mes frères, je tiens à vous leur dire en termes aussi clairs que possible, faites ce que vous voudrez, dites ce qu'il vous plaira, vous ne parviendrez jamais à obtenir le pardon de vos péchés, à moins que vous ne placiez votre confiance dans le sang répandu de votre Sauveur, et uniquement dans ce sang, car hors de là, il n'y a point de rémission. Et si mon texte est absolu dans sa nature, il est de plus universel dans son application, quoi ? Ne puis-je point obtenir la rémission de mes péchés, autrement que par l'effusion du sang ? Demande le monarque, et il s'avance le front, ceint de sa couronne royale, ne puis-je point avec toute ma splendeur, avec toute ma puissance, avec tous mes trésors, payer par moi-même la rançon de mon âme ? Impossible. Répond mon texte. Vient ensuite l'homme de science, tout chargé de titres et de distinctions universitaires, il les étale avec complaisance et demande à son tour, ne puis-je point obtenir la rémission de mes péchés en vertu de ces témoignages de mon grand savoir ? Impossible. Impossible. Répète mon texte. Puis survient le philanthrope, l'homme bienfaisant et libéral. J'ai répandu mon argent en aumône, dit-il. J'ai distribué mon bien pour la nourriture des pauvres. Cela ne m'assure-t-il point le pardon de Dieu ? Non. Dit mon texte, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Ah ! Comme ceci passe à un même niveau sur toutes les têtes. Monseigneur, vous n'êtes pas plus que votre cocher, maître, gentilhomme, vous marchez de pair avec le paysan qui laboure vos domaines. Ministre de l'Évangile, ton office ne te place aucunement en dehors de la loi commune, ton plus humble auditeur est tout aussi bien partagé que toi sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Pour le meilleur, comme pour le plus mauvais des hommes, il n'y a aucun espoir de salut hors de l'effusion du sang. Oh ! Que j'aime l'Évangile ! Et savez-vous, mes amis, une des raisons qui me le font aimer ? Je l'aime parce qu'il est un évangile essentiellement égalitaire. Bien des gens ne veulent pas d'un tel évangile, et moi non plus je n'en voudrais certes pas si j'attachais au mot d'égalitaire le sens qu'on lui a trop souvent donné. Que chacun conserve son rang, ses titres, sa fortune, rien de plus juste, mais j'aime, je l'avoue et je suis sûr, qu'en ceci tout vrai chrétien sera d'accord avec moi, oui, j'aime à voir le riche et le pauvre s'entre rencontrer, j'aime à les voir placés côte à côte sous le grand niveau de l'évangile. Arrière vos sacs d'argent. Dit l'évangile aux riches, ils ne peuvent rien pour votre salut. Replayez vos diplômes, dit-il aux lettrés, ils ne peuvent rien pour votre salut. Oubliez votre ferme ou votre parc. Dit-il à ceux qui possèdent, ces choses ne peuvent rien pour votre salut. Couvrez votre écusson, dit-il aux nobles, toutes les armoiries du monde ne peuvent rien pour votre salut. Venez, vous, pauvres, mendiants, déshérités du monde, venez, vous, rebuts et balayeurs de la terre, avancez. Quoique votre esprit soit sans culture et vos manières peu polissées, le salut est pour vous tout autant que pour le riche, le titré, le puissant, l'homme entouré d'hommages et d'honneurs. Mon texte s'adresse indistinctement à toutes les classes de la société, tous nous sommes égaux sur ce terrain, sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. Remarquez en outre, mes chers auditeurs, que ces paroles sont d'une application perpétuelle. Paul les a dites, je dois répéter son témoignage, et si dans 1000 ans d'ici l'évangile est encore prêché, les ministres de Dieu le répéteront à leur tour. Cette vérité ne changera jamais. Dans l'autre monde comme dans celui-ci, il sera toujours vrai que sans effusion de sang, il ne se fait point de rémission des péchés. On peut chercher à vous faire croire le contraire, mais bien-aimés, on peut vous dire, par exemple, que vos œuvres ou vos pénitences ou votre argent vous assureront le pardon de Dieu, mais repoussez de toutes vos forces ces fables et ces mensonges et tenez pour certain qu'il n'y a de rémission possible que par le sang propitiatoire du Fils de Dieu. Non, quand vous passeriez sur vos deux genoux votre vie tout entière, quand vos yeux se fondraient en torrents de larmes, quand vous gémiriez et supplieriez jusqu'à ce que les fibres de votre cœur se rompissent au-dedans de vous, non, jamais, jamais en ce monde, jamais dans l'éternité, vous ne pourrez obtenir le pardon de vos péchés, autrement que par le sang de Christ, jamais votre conscience ne sera purifiée que par la foi en son sacrifice. Et aussi bien, mes chers amis, à quoi vous servirait-il de vous contenter de rien moins que ce qui a contenté Dieu le Père? Vous vous séduiriez vous-même, voilà tout. Rien n'a pu satisfaire sa justice que l'effusion du sang de son Fils, et rien ne pourra blanchir vos consciences que les mérites de ce sang appliqués à vos âmes par la foi. De même, j'ai dit que de la négation même contenue dans mon texte, ressort une affirmation, or, cette affirmation implicite, et celle-ci, il y a une rémission des péchés, par l'effusion du sang, et observons tout d'abord que cette rémission est un fait accompli. Le sang ayant été versé, la rémission est déjà obtenue. Je vous ai conduit au jardin de Gethsémané et au mont Calvaire, pour vous faire assister à l'effusion du sang. Allons maintenant dans un autre jardin et sur un autre mont, pour contempler les grandes preuves de la rémission acquise au prix de ce sang. Allons dans un autre jardin, ai-je dit. Et en effet, c'est un jardin qui s'étend devant nous, jardin tout embaumé de doux, de triomphants souvenirs. Là, dans un rocher, loin de l'agitation et du bruit du monde, Joseph d'Arimathée s'était fait tailler un sépulcre neuf, où il pensait que son pauvre corps d'argile serait bientôt déposé, mais le corps de Jésus y fut mis le premier. Les scènes lugubres de la crucifixion venaient d'avoir lieu. Jésus s'était constitué répondant de son peuple, et la loi avait demandé son sang. La mort l'avait étreint de sa main de fer, et ce tombeau était comme la sombre prison où semblait devoir être détenu à jamais celui qui avait donné sa vie pour ses brebis. Comment donc se fait-il que je vois dans ce jardin un sépulcre ouvert et inoccupé? Mes frères, je vais vous le dire. La dette est payée, les péchés sont effacés, la rémission est acquise. Le grand pasteur des brebis a été ramené d'entre les morts par le sang de l'Alliance éternelle. Donc, le sacrifice a été accepté et maintenant nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés. Hébreux 13, 20 Éphésiens 1, cette voie-là, mes bien-aimés, une première preuve. En voulez-vous une autre plus concluante encore? Venez avec moi sur le mont des Oliviers. Là, contemplez Jésus levant ses mains sur ses disciples, comme autrefois le souverain sacrificateur sur la multitude, et tandis qu'il les bénit, voyez le montant majestueusement vers le ciel et disparaissant sur une nuée de devant leurs yeux. Mais que signifie cette glorieuse ascension? Demandez-vous, où donc va Jésus? Pourquoi, oh? Pourquoi quitte-t-il ainsi la terre ? L'apôtre va vous répondre : Christ est entré, non point dans le sanctuaire, fait de la main des hommes, mais dans le ciel même, pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et il est entré avec son propre sang, nous ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pourquoi nous avons, par le sang de Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu. Hébreux 9, 24,12, 10, 19. La rémission est donc un fait accompli, en voilà une seconde preuve. Ô croyant, quelle source abondante de consolation n'y a-t-il pas ici pour toi ? Que pourrais-je te dire que tu ne saches pas déjà ? Aussi je te laisse à tes douces expériences, mon bien-aimé, pour essayer de convaincre ceux qui n'ont pas cru au prix infini de cette rémission des péchés, acquise par l'effusion de sang. On raconte qu'un pasteur éminent, étant allé visiter un inconverti sur son lit de mort, celui-ci lui dit : Monsieur le pasteur, je me confie en la miséricorde divine, certainement, puisque Dieu est infiniment bon, il ne voudra pas vouer une âme à la condamnation éternelle. Plus tard, le serviteur de Dieu revint auprès du malade dont l'état s'était aggravé. « Oh ! Monsieur le pasteur, s'écria-t-il, je n'ai plus de confiance. Je viens de réfléchir que si Dieu est miséricordieux, il est juste aussi, et que ferais-je ? Oh ! Que ferais-je si, au lieu de déployer sa bonté envers moi, il ne déployait que sa justice ? Non, je ne puis plus compter sur la seule miséricorde de Dieu. Oh ! Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. » Le pasteur exposa alors au moribond le plan du salut, il lui dit que Christ était mort à la place du pécheur, qui se confie en lui, en sorte que Dieu est juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 25. Le malade écoutait avec avidité. « Ah ! Monsieur, s'écria-t-il enfin, voilà justement ce qu'il me fallait, j'avais besoin d'un fondement solide, sur lequel je puisse bâtir mes espérances, et vous venez de me l'indiquer, ailleurs je ne vois qu'incertitude et que doute. » Cet homme disait vrai. Non, mes amis, il n'y a aucune paix, aucune confiance possible hors de Christ. À part les âmes qui se confient uniquement dans le sang de Jésus, pas un de nous, j'ose l'affirmer, n'a jamais rencontré une seule personne qui fût pleinement assurée de son pardon. Voyez le musulman, il ne sait rien du pardon des péchés. Voyez l'incrédule, il n'est jamais sûr s'il est pardonné ou non. Voyez le formaliste, il dira bien « j'espère que mes péchés me seront remis », mais il n'ose affirmer qu'ils le sont. Je le répète, celui-là seul possède l'assurance de son salut, qui croit fermement que Christ, et Christ seul, a expié les péchés par l'effusion de son sang. Mais quelles sont les âmes que Christ est venu sauver ? Pour répondre à cette question, permettez-moi de vous raconter un simple fait. Le grand prédicateur Whitfield avait un frère qui avait été, comme lui, un fervent chrétien, mais il s'était détourné des sentiers de la piété, il avait fait des chutes graves. Or, un jour, après qu'il eut reconnu ses égarements, il était fort troublé dans son âme, car il avait entendu la veille un sermon de son frère qui avait blessé sa conscience jusqu'au vif. Le soir, au souper, il s'écria, comme se pariant à lui-même « Je suis un homme perdu ». Et il commença à gémir et à pleurer, en sorte qu'il ne pouvait prendre aucune nourriture. « Pardon, monsieur ?»« Whitfield, que disiez-vous, je vous prie ?» demanda Lady Huntingdon qui était assise en face de lui à ceux de nos lecteurs, qui ne connaîtraient point le nom de Lady Huntingdon, nous dirons que cette dame, illustre par sa naissance, par ses talents, et surtout par son éminente piété, consacra au service de son divin maître tous les dons qu'elle avait reçus de lui. Elle vécut à l'époque du grand réveil religieux qui eut lieu en Angleterre le siècle dernier et dépensa une fortune considérable, soit à construire des lieux de culte, soit à pourvoir aux besoins temporels des fidèles serviteurs de Dieu qui passaient leur vie à annoncer l'Évangile. Le célèbre Whitfield était l'un de ses amis les plus intimes. Voir pour plus de détails l'intéressant ouvrage intitulé « Lady Huntingdon et ses amis, etc. » publié par la Société de Toulouse. Note du traducteur. « Madame, répondit-il, je disais que je suis un homme perdu. »« J'en suis fort aise, monsieur, répliqua-t-elle, j'en suis fort aise. »« Comment, madame ? Que voulez-vous dire ?» balbutia le pauvre homme au comble de l'étonnement. « C'est bien cruel à vous de vous réjouir de ce que je suis perdu. »« Je le répète, monsieur, j'en suis fort aise en vérité, » reprit-elle. Il la regarda, de plus en plus surpris de son inhumanité. « Oui, monsieur, Whitfield, j'en suis fort aise, » continua Lady Huntingdon, « car il est écrit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » À l'ouïe de ces paroles, Whitfield fondit en larmes. « Quel précieux passage, madame !» s'écria-t-il, et d'où vient qu'il s'applique en cet instant avec tant de force à mon âme? Oh! Je bénis Dieu de me l'avoir fait entendre. Jésus veut donc me sauver, je remets mon esprit entre ses mains, je suis pardonné. Ayant dit cela, il sortit de la maison, se sentit pris d'un malaise soudain, tomba en arrière et expira. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Y a-t-il ici une âme perdue? Dieu le veuille. Homme perdu. Femme perdue. Où êtes-vous? Vous sentez-vous perdu sans ressources? Oh! Combien j'en sais heureux! Car c'est pour des créatures telles que vous qu'a été faite la rémission des péchés par l'effusion du sang. Pauvre pécheur, tes yeux sont peut-être obscurcis par les larmes de la repentance, mais regarde au travers de tes larmes, mon frère. Vois-tu cet homme dans le jardin de Gethsémané? Il sut pour toi des grumeaux de sang. Vois-tu cet homme attaché sur un bois infâme? Il a été cloué là pour toi? Oh! Mes amis, si pour vous sauver d'une mort certaine, je consentais à être cloué aujourd'hui sur une croix, je sais ce que vous feriez, vous vous jetteriez à mes pieds, vous les couvririez de baisers, vous les arroseriez de larmes d'amour et de reconnaissance. Eh bien, pécheur, pécheur perdu, pécheur qui te sent tel, Jésus est mort pour toi proprement, et s'il est mort pour toi, tu ne peux qu'être sauvé, car Christ n'est mort en vain pour personne. La question est donc celle-ci, te reconnais-tu misérable et indigne? Es-tu convaincu de péché parce que tu ne crois pas en Christ? S'il en est ainsi, mon cher auditeur, je suis chargé par mon maître d'un message, pour toi crois en son nom et tu seras sauvé. Mais penses-tu qu'en définitive tu n'es pas un si grand pécheur? Oh! Alors, je ne sache pas que Christ soit mort pour toi. Dis-tu que tu n'as pas besoin de repentance? Alors je n'ai point de Christ, point de salut à t'annoncer. Dis-tu que tu n'as pas besoin d'un sauveur? Alors je n'ai absolument rien à te dire que ces trois mots, la colère venir. La colère à venir. Christ n'est pas venu pour sauver les justes, les âmes satisfaites d'elles-mêmes, il est venu pour sauver les méchants. Es-tu méchant? Le sens-tu? Es-tu perdu? Le sais-tu? Es-tu coupable? Serais-tu prêt à le confesser en toute occasion? Dans ce cas, je le répète, mon bien-aimé, ne crains rien. Si Jésus était ici en cet instant, il étendrait vers toi ses mains sanglantes et te dirait, pauvre pécheur, je suis mort pour toi, veux-tu croire en moi? Jésus n'est pas ici en personne, mais il a envoyé son serviteur pour te dire de sa part, ne veux-tu pas croire en celui qui est mort pour toi? Oh! Dis-tu peut-être, je suis un si grand pécheur? C'est justement à cause de cela que je suis mort, répond Jésus. Mais je suis indigne d'un tel sacrifice, objectes-tu encore? C'est justement à cause de ton indignité que j'ai dû me sacrifier pour toi, dit Jésus. Mais j'ai haï Christ, ajoutes-tu. Mais moi, je t'ai toujours aimé, reprend Jésus. Mais, Seigneur, j'ai insulté les ministres, j'ai méprisé ta parole. Tout est pardonné, dit Jésus, le sang qui a coulé de mon côté percé a effacé toutes tes transgressions. Crois seulement, je ne te demande rien de plus, et pour cela même je t'aiderai, je te donnerai un cœur croyant à la place de ton cœur incrédule. Mais quelqu'un me dira, prédicateur de l'Évangile, vos paroles vont sûrement au-delà de votre pensée. Quoi? Voudriez-vous dire aux hommes et aux femmes les plus dépravés qui sont dans cette enceinte que la rémission des péchés a été faite pour eux? Mon cher auditeur, je veux dire précisément ce que je dis. La voilà, la pécheresse, la femme de mauvaise vie, qui a entraîné bien des âmes dans le vice et envoyé bien des âmes en enfer. La voilà. Tous ses amis l'ont chassée de leur maison, son père lui-même rougit de l'appeler sa fille et lui a défendu de jamais reparaître en sa présence. Femme, te repens-tu? Pleures-tu sur tes péchés? Te reconnais-tu coupable et perdu? Détestes-tu tes égarements passés? S'il en est ainsi, Jésus est mort pour te sauver. Et quoi que puisse dire le monde, tu seras sauvé. Le voilà, l'intempérant, le violateur du sabbat, l'homme flétri par le vice. Je le reconnais. La nuit dernière, j'entendis sa voix dans les rues, comme il regagnait sa demeure, ivre, vociférant des blasphèmes, jetant le trouble sur son passage. Arrivé chez lui, il maltraita sa malheureuse femme, et quant aux imprécations qu'il a prononcées, Dieu seul en sait le nombre. Eh bien, à toi-même, ô homme, je dis en cet instant, sens-tu combien tu es coupable? Haïs-tu tes transgressions et désires-tu sincèrement y renoncer? S'il en est ainsi, que Dieu soit béni. Christ est mort pour le sauver. Crois. Qu'est-ce à dire? s'écriera peut-être une autre personne, faut-il donc être un pécheur scandaleux pour avoir part à la rémission des péchés acquises par l'effusion du sang de Christ? Assurément non, mon cher auditeur. J'ai reçu il y a quelques jours une lettre d'un jeune homme qui, comptant m'entendre cette semaine, m'écrivait à peu près en ces termes: « Monsieur, veuillez, je vous en prie, prêcher un sermon approprié à l'état de mon âme, car je suis dans une grande perplexité. »